La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Chaque 16 octobre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. Une date symbolique, celle de la création de l'organisation en 1945. Mais cette journée, ce n'est pas qu'une commémoration. C'est surtout un rappel, car sans alimentation, pas de civilisation. Il y a plus de 10 000 ans, les premières communautés humaines ont troqué la cueillette pour la culture des champs. En Europe, les traces archéologiques montrent déjà une culture maîtrisée, héritée sans doute du Moyen-Orient. Les migrations de ces premiers agriculteurs ont façonné le monde, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, partout le même constat, cultiver, c'était survivre. Aujourd'hui encore, l'enjeu reste vital. En France, depuis 2013, le gouvernement a instauré une journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Objectif, diviser par deux nos déchets alimentaires. Une nécessité quand on sait que près d'un tiers de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. Et pendant que certains jettent, d'autres meurent de faim. Plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans succombent chaque année à la malnutrition. Un drame silencieux qui rappelle que se nourrir n'est pas toujours un droit universel. Pour y répondre, la FAO a lancé une décennie d'actions pour la nutrition. Ses ambitions sont d'intégrer la nutrition dans les programmes scolaires, soutenir les pays les plus touchés, mobiliser la communauté internationale et encourager la recherche scientifique. L'alimentation, c'est ce qui nous relie tous. Elle dit nos inégalités, nos excès, nos choix de société. Alors en ce 16 octobre, peut-être est-ce le bon moment pour réfléchir à ce que manger veut vraiment dire. Et maintenant, le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous recevons Pierre Henry, le président de France. Que faire face à la montée de l'île émettrice ? Ah, de France Fraternité, excusez-moi, à l'occasion de la rencontre Femmes en péril, démocratie en danger, pour faire face à la montée de l'île émettrice. Il sera interviewé par Hugo. Tom nous présentera le Flash Info. Dans le Zoom, nous parlerons du Festival Paris Science. C'est Diane qui fera l'interview. Et côté chronique ce soir, ce sera avec Anaïs et Gauthier.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et aujourd'hui, nous recevons Pierre Henry, le président de Pierre Fraternité, pour parler de la montée de l'illettrisme, l'illibéralisme. Je savais que j'allais me planter sur ce mot. Il est interviewé par Hugo. Bonjour Pierre Henry.
Bonjour.
Bonjour Hugo, et c'est à toi.
Bonjour, comme mon collègue vient de dire, vous êtes le président de France Fraternité et nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'illibéralisme. Dans deux jours, le samedi 18 octobre, au 360 de Paris, au 32 rue Mira dans le 18e, aura lieu une rencontre rythmée par trois tables rondes et des performances artistiques qui rassembleront experts, expertes, militants et militantes et témoins autour d'une seule thématique, femmes en péril, démocratie en danger, agir face au recul des droits et à la montée de l'illibéralisme. Je l'ai bien prononcé ?
Oui, oui, très bien, très, très bien.
Alors tout d'abord, justement, est-ce que vous pouvez nous définir, pour nous et nos auditeurs, le mot illibéralisme ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors d'abord, merci de me recevoir sur l'antenne Radio Campus.
Merci à vous.
Je suis ravi d'être là, sur une antenne qui accueille les étudiants. Et effectivement, vous avez raison, dans deux jours, nous organisons avec une quinzaine d'organisations, dont certaines sont très connues de votre public, la Fondation des Femmes, Solidarité Femmes, Voix de Femmes, une rencontre autour de la question du droit des femmes face à la montée de l'autoritarisme. Qu'est-ce que c'est que l'illibéralisme ? C'est un mouvement que l'on rencontre partout aujourd'hui dans le monde, dans la forme la plus visible est le trumpisme aujourd'hui, mais qui est présente un peu partout en Europe et qui consacre la montée de l'extrême droite. Et ce que nous cherchons à dire aujourd'hui avec nos amis qui vont participer à cette manifestation, c'est attention, Partout où l'extrême droite progresse, le droit des femmes peut être remis en cause. Alors, il y a des exemples en Europe, tout près de nous. Vous savez, en Pologne, par exemple, le droit à l'IVG est totalement interdit, ou quasiment totalement interdit.
Et ça depuis peu, non ?
Oui. Mais depuis la venue au pouvoir d'un mouvement autoritaire. Il faut quand même imaginer qu'en Pologne, près de 40 millions d'habitants, l'année dernière, vous avez près de 50 000 femmes qui ont avorté soit à l'extérieur de la Pologne, soit grâce à l'aide des ONG. Et on ne se rend pas très bien compte de ce que ça représente en France, parce que le droit à l'IVG est constitutionnalisé depuis l'année dernière, depuis 2024. C'est rentré dans la Constitution et personne ne peut y toucher, sauf évidemment à tout chambouler. Et donc, en Europe, il y a des remises en cause. Aujourd'hui, à Malte, on n'a pas le droit, par exemple, d'avorter. Mais en Italie, vous avez dans les zones rurales beaucoup de médecins qui font jouer, par exemple, la clause de conscience. Donc, sur un droit qui est quand même fondamental pour les femmes, qui est celui de disposer de son propre corps, en Europe, tout près de nous, avec la devise « unie dans la diversité », vous voyez que c'est remis en cause. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, évidemment. Vous avez, y compris sur le plan économique, toujours une bataille fantastique à mener, puisque les femmes, à travail égal, c'est 20% environ de rémunération de moins. Il y a une bataille sur le plan évidemment politique, sur la parité à mener. Et c'est Simone de Beauvoir qui disait, alors je ne sais pas si les étudiants, les jeunes connaissent Simone de Beauvoir, mais quand même, le deuxième sexe, etc. Elle disait déjà en 1949, ça remonte un petit peu quand même. Mais
pour autant, le combat reste actuel.
Il suffira d'une crise politique. Voilà ce qu'elle disait en 49. Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Eh bien, on y est. Et donc, on va parler de la situation en Europe, mais on va évidemment parler aussi de la situation dans le monde. Nous prendrons exemple sur deux pays. L'un où l'apartheid de genre à l'égard des femmes est total. Je parle de l'Afghanistan. Vous imaginez quand même que dans ce pays, dès lors que les talibans sont arrivés au pouvoir, les petites filles ont été interdites poursuivre des études.
Jusqu'à quel âge elles peuvent aller à l'école aujourd'hui ?
Jusqu'au primaire. Et après, c'est terminé.
Terminé.
Donc, ça concerne plus de 2 millions de petites filles. Vous avez également un certain nombre de violences qui sont fort connues. Chacun a en tête le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran. Aujourd'hui, simplement, le choix de se vêtir est remis en cause par la théocratie qui est au pouvoir par les mollahs. Donc nous parlerons avec un certain nombre d'acteurs très engagés de la situation en Iran et en Afghanistan. Et puis une dernière table ronde abordera la question suivante, c'est que le corps des femmes systématiquement dans les zones de conflit est un champ de bataille mondial. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? D'abord, il y a des violences ordinaires, si j'ose dire. Il faut quand même avoir en tête que près de 600 millions femmes dans le monde sont mariées avant l'âge de 18 ans. Mariage forcé. Que près de 200 millions sont victimes de violences d'excision, par exemple, de mutilation génitale. 200 millions voilà. Et à chaque fois qu'il y a un conflit, bah, c'est d'abord les femmes qui sont en première ligne et qui sont victimes de violences diverses, de violences, viols, de guerre, etc. Puis il y a, si j'ose dire, aussi les violences quasi quotidiennes qui ont été mises à jour par différents mouvements, je pense à MeToo, mais pas seulement, évidemment, qui sont et qui sont représentées par un certain nombre de féminicides, quand même. L'année dernière, 140 féminicides. Depuis le début...
Ils augmentent, ces féminicides ?
En tout cas, ils ne diminuent pas. Voilà, simplement, en France, il y a un peu plus de visibilité sur cette question, mais vous voyez bien qu'il y a un combat essentiel à mener. Il faut quand même se souvenir que les femmes ont acquis, par exemple, le droit de vote très tard. On parle de la Révolution française, on a raison, parce que c'est un moment charnière, fondateur pour la République. Mais enfin, cette République, elle ne considérait pas tout le monde de manière égale, puisque le droit de vote des femmes est arrivé très tard après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, vous avez y compris, par exemple, le droit de disposer d'un compte bancaire. Les jeunes générations ont l'impression que
c'est acquis. Nous sommes en France, c'est acquis depuis que nous sommes nés, donc forcément, on ne s'en rend pas compte.
C'est dans les années 60, hein. C'est pas si vieux.
C'est moins d'un siècle.
J'ai fait 60 ans, peut-être l'âge des parents de certains, d'une partie de la jeunesse. Bon, voilà, donc cette situation, ben, nous allons en parler avec un certain nombre d'acteurs, engagés, avocats, directeur, directrice d'association, parce que il y a un certain nombre d'intervenantes, je crois qu'il y a un intervenant autour de cette question. On ne fait pas une distinction de genre, mais il se trouve que quand on parle des femmes, c'est quand même mieux de donner la parole aux femmes. Et donc, ça se passera, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je le répète, au 360 à
16h à 22h, c'est ça.
16h à 22h, à Barbès, rue Mira. C'est un très beau lieu, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, je les invite évidemment à venir. Mais,
L'entrée est payante ?
Non, l'entrée est gratuite. Il faut simplement aller sur le site de Hello Association, ou sur le site, plus exactement, de France Fraternité. Vous trouverez le lien, c'est francefraternité.org. Vous tapez ça et vous allez sur LOSO et vous trouvez l'inscription est nécessaire, elle est gratuite. Et il y aura également un certain nombre de performances artistiques, puisqu'il y a une écrivaine, poète, qui s'appelle Mahtab Corbani, qui est iranienne, qui se produira. Et puis surtout, il y a un groupe, Manouchan, qui travaille autour du jazz manouche, qui est un très beau groupe, créé par des Iraniens qui sont en exil. Et ça sera un moment très fort.
Vous parlez de performance artistique, justement, quel rôle l'art peut-il jouer dans cette déconstruction des idées illibéralistes ?
L'art, c'est un espace de liberté. C'est un espace de liberté absolue. Et donc, et à travers l'art, vous avez... L'art n'est pas neutre. Il transporte un certain nombre de représentations.
Il donne la voix à ceux qui ne l'ont pas.
Il donne la voix à ceux qui ne l'ont pas, ou se font les interprètes de ceux qui n'ont pas de voix. Ce sont des moments d'émotion extrêmement important et où c'est le moment de déconstruction, d'émotion, de partage qui sont extrêmement qui sont vitales à la création. Et vous savez, dans tous les mouvements, dans tous les pays où il y a des mouvements autoritaires, l'art est évidemment interdit. Par exemple, je rappelle que il y a des gens qui se sont pris 72 coups de fouet en Iran pour avoir chanté, simplement. Vous avez une fatwa de Ali Khamenei en Iran qui interdit aux femmes de chanter. Voilà. Et donc, il faut redire un certain nombre de choses de ce type.
Et c'est important de le rappeler. On va d'ailleurs marquer une pause musicale, Fabien.
Oui, c'est moi qui vais le dire, ça. Et oui, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Gang of Four, Damaged Goods. C'était Gang of Four, Damaged Goods sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et nous sommes toujours avec Pierre Henry et nous parlons de la montée de l'illibéralisme. Hugo, je te laisse la parole.
Bravo.
Oui, nous revenons sur ce mouvement. Alors, il y a une mouvance particulière en ce moment qui monte aussi, qui s'appelle la mouvance de la tradwife, qui est popularisée par Erika Kirk, la femme de Charlie Kirk, qui est décédée il y a peu. Elle détient une fortune de 86 millions de dollars et elle enchaîne les conférences pour dire aux femmes de rester à la maison et de s'occuper de leurs enfants et de satisfaire leur mari. Un paradoxe quand on sait qu'elle, elle fait une fortune sur ses conférences. Comment et pourquoi ce mouvement arrive aujourd'hui spécialement ?
Tout simplement parce que nous sommes dans un moment très particulier avec une bataille culturelle intense qui remet en cause la démocratie et l'état de droit. C'est quoi la démocratie et l'état de droit ? C'est la capacité à ne pas subir l'arbitraire. C'est la recherche de l'égalité homme-femme. C'est la justice indépendante. C'est la parole des journalistes qui est libre. C'est la possibilité de développement de contre-pouvoirs. Eh bien, à peu près partout où les pouvoirs autoritaires se sont installés, tout ça est balayé. Et ça s'accompagne d'un discours masculiniste qui renvoie évidemment les femmes à un rôle traditionnel, c'est-à-dire les femmes faisant des enfants et restant à la cuisine. En gros, c'est cela le mouvement. Et que la femme de Kirk se fasse la propagandiste de cela est évidemment un signe des temps. Voilà, et en Europe, vous avez aussi cette percée et des groupes qui nous disent ce que serait une bonne féminité, et qui systématiquement remettent en cause les progrès législatifs en matière d'égalité ou de protection contre les violences faites aux femmes. Et donc, je crois qu'il est important que nos générations, et là je parle de façon intergénérationnelle, aient en tête deux boussoles. La première, c'est l'humanisme. La deuxième, c'est l'universalité des droits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque personne a des droits qui sont inhérents à sa personne. Et voilà, que vous naissiez en Chine, en Afrique, sur le continent africain ou en Europe, vous avez intrinsèquement des droits et une potentialité à demander évidemment l'égalité. Et donc c'est cela que nous défendons, même si nous savons bien que évidemment il y a des contextes et que
d'ailleurs aujourd'hui nous sommes en pleine crise en France.
Oui, alors, on est en pleine crise politique, mais c'est une crise du politique, c'est une crise de la représentation politique, ça, c'est vrai, notamment au niveau parlementaire, où ils donnent un spectacle qui n'est quand même pas
rassurant,
réjouissant, etc. Vous avez un projet de budget qui a de quoi interroger notamment la jeunesse. Je vois les coupes sombres dans le budget, notamment concernant les associations, le sport par exemple une proposition pour stopper les APL pour les étudiants étrangers.
Donc, exactement, c'est toujours les premiers sur qui on tape, les étrangers, au final.
Oui, alors, cela étant, ce que je veux vous dire, c'est que pour l'instant, on est dans un projet de budget et qu'il est important d'en débattre, que le Parlement fasse son travail avec évidemment l'aide du mouvement social. Il est important que les organisations ou tous les relais d'opinion qui s'intéressent par exemple à la jeunesse, mais pas seulement, puissent dire leur mot sur situation qui prévaut. Et même si tout le monde doit faire des efforts, il est clair que les efforts doivent d'abord porter sur les plus nantis.
Et nous parlions de financement, justement, le monde connaît également une crise du financement humanitaire. Quel est l'impact de cette crise aujourd'hui ?
Il est énorme, énorme. Le fait que Trump, aujourd'hui, coupe les vivres, d'abord, conteste la légitimité du multilatéralisme et de l'ONU, remet en cause...
Qu'est-ce que c'est le multilatéralisme, pour être précis ?
Ah ben, c'est le fait de pouvoir... comment décider du sort du monde à plusieurs. L'ONU, c'est une grande...
C'est ça, aujourd'hui, on n'a qu'un visage Trump, c'est ça ?
Une grande agora où les pays viennent dire leurs orientations et où un seul ne décide pas pour le monde entier et suivant l'humeur qu'il a le matin. Et nous vivons à un moment qui est extraordinairement dangereux avec la remise en cause de tous les acquis, entendez-moi bien, qui ont été arrachés de haute lutte après la Seconde Guerre mondiale. Et donc tout ce qui nous paraît normal aujourd'hui est remis en cause. La Cour européenne des droits de l'homme, qui permet à chacun d'avoir un recours si jamais la décision de justice de son pays ne paraît pas normale. Ben, l'extrême droite aujourd'hui dit « Oh mais non, franchement, la CEDH, c'est une atteinte à la souveraineté de notre pays, donc allez, on balaye et puis on arrive finalement à des situations un peu comme en Argentine avec Milei. Vous savez, l'homme à la tronçonneuse,
ouais,
mais qui aujourd'hui a mis son pays dans un état absolument déplorable. 40% d'inflation en Argentine et un désastre total sur le plan de l'emploi, simplement.
Alors que les Argentins espéraient que ça remonte avec l'arrivée de Milei, justement.
Et donc, il faut vraiment dire à tout le monde, attention, l'extrême droite... Ça ne cessait pas. Parce que si vous essayez l'extrême droite, vous allez en prendre plein la tête. Et vos droits vont en prendre plein la tête. Et donc ça, il faut avoir ça en tête. Et moi, je comprends que des générations se disent « Oui, oh, bon, après tout, c'est pas si grave, etc. On peut toujours essayer. Ça, c'est un mouvement intergénérationnel. » Non, on n'essaie pas l'extrême droite. On n'essaie pas les gens qui remettent en cause la démocratie. Vous savez, Churchill disait « La démocratie, c'est le meilleur des systèmes, c'est le plus mauvais des systèmes, à l'exception de tous les autres. Hein. » Donc, voilà, oui, il n'est pas parfait. Mais enfin, ça permet quand même de s'exprimer.
Et oui, et justement...
Défendre un certain nombre de droits, non ? Allez-y.
L'illibéralisme, il est porté par des hommes, mais aussi des femmes, mais des hommes dont certains, comme Rabia Rilay, vous l'avez dit, Donald Trump, ou encore en France, il y a Louis Sarkozy récemment qui donne sa voix partout sur les médias. De notre point de vue, comment ils s'expriment, comment ils parlent, leur communication politique, ils nous paraissent un peu stupides, et pourtant, les gens votent pour eux. Alors pourquoi est-ce que les citoyens se raccrochent à ces gens-là ?
Oui, d'abord, alors, Louis Sarkozy, c'est une caricature, hein,
oui.
Masculiniste, montrant ses pectoraux, expliquant qu'il fait de la salle du matin au soir, etc. Et c'est sur ce programme-là qu'il va se présenter, où ça, à Montant, c'est pas quand même n'importe où, mais... Cela étant, il n'a pas encore gagné, hein, parce que je vois les mouvements qui se passent à Monton, ça ne va pas être si simple que ça. Bon, c'est le fils d'eux, hein, le fils d'eux qui d'ailleurs, dans quelques jours, va aller faire un petit tour du côté de la santé, donc c'est quand même pas totalement brillant. Mais... vous dites pourquoi les gens votent pour ça ? Bah, d'abord parce que je crois que aussi matin, midi et soir, vous avez une représentation et notamment par un certain nombre de médias privés qui assènent une contre-réalité, qui instrumentalise un certain nombre de faits divers et qui vont taper toute la journée sur les questions de sécurité, d'immigrés voire de musulmans. Donc, au bout d'un moment, vous savez, les gens, dans leur salle à manger, ben, ils ont l'impression qu'ils sont envahis par des hordes de migrants, que il y a des criminels aux quatre coins de leur salon, et bon, ça finit par leur tourner le cerveau. Donc, que des médias indépendants comme le vôtre, comme Radio Campus existe, c'est véritablement un bien commun qu'il faut défendre, et je suis très heureux d'être sur votre antenne.
Eh bien, merci beaucoup Pierre-Henri. Nos auditeurs sont en partie étudiants, nous l'avons dit, alors comment est-ce qu'ils peuvent, eux, s'engager au quotidien, justement ?
Ah ben, d'abord, ils le font, hein. Vous avez un certain nombre de jeunes femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont engagés aujourd'hui dans un certain nombre de mouvements féministes. Ils sont très nombreux. Il y a parfois des dialogues générationnels. Parfois, on ne comprend pas totalement le radicalisme de certains, mais peu importe. Ce qui est, je crois, l'essentiel, c'est que, par exemple, moi, ma génération, elle a été très engagée. Elle a combattu pour un certain nombre de droits. Ce qui est important, c'est la transmission et c'est de pouvoir échanger, discuter, voilà. Et puis travailler aussi dans la bienveillance et la fraternité ou la sororité.
Et c'est ce que nous allons faire samedi 18 voilà. octobre autour du sujet Femmes en péril, démocratie en danger, agir face au recul des droits et à la montée de l'illibéralisme. C'est de 16h à 22h au 360 de Paris, au 32 rue Mira, dans le 18e. Retenez cette date et allez-y, c'est important. Merci beaucoup Pierre-Henri.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt.
Merci Pierre-Henri, merci Hugo, et c'est l'heure du Flash Info qui nous est présenté par Tom.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Et bonsoir Fabien. Alors l'actualité en France en ce jeudi 16 octobre, c'est surtout le rejet des deux motions de censure contre l'acte 2 du gouvernement du Premier ministre Le Cornu. L'une déposée par la France Insoumise n'a échoué qu'à 18 voix près et l'autre, celle du Rassemblement National, n'a récolté que 144 voix, votées seulement par le groupe d'extrême droite lui-même et par quelques alliés ciotistes. Le Parti Socialiste s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. Le groupe dirigé par Olivier Faure n'a pas souhaité voter pour la destitution de Le Cornu, ce qui a fait scandale à gauche. Et puis l'actualité hexagonale, c'est aussi le rendu de l'étude annuelle de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains qui a été dévoilée par France Inter tôt ce matin. Selon ce rapport qui s'appuie sur les remontées de plusieurs dizaines d'associations, 7285 victimes ont été décomptées en France en 2024, un chiffre en forte augmentation, quasiment 21% de plus que lors de l'année 2023. 89% de ces victimes étaient des femmes, majoritairement enlevées à des fins d'exploitation sexuelle. Les trois quarts étaient mineurs au moment de leur enlèvement. À l'international maintenant, nouveau rebondissement quotidien sur l'application de l'accord de paix proposé par Donald Trump et accepté par le Hamas et Israël. Seulement 9 corps ont été rendus au compte-gouttes par le mouvement islamiste qui a déclaré hier soir avoir rempli son engagement en remettant les corps auxquels elles avaient pu avoir accès. Le Hamas devait notamment remettre 20 otages et 28 corps lundi matin au plus tard. Et donc aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé être déterminé à obtenir le retour de toutes les dépouilles d'otages. Quant au ministre de la Défense, il avait déjà menacé hier de reprendre l'offensive dans la bande de Gaza. Toujours quant à Donald Trump, dans l'affaire qui l'oppose au Venezuela, sur fond d'accusation de narcotrafic, le président républicain a avoué ce matin devant la presse avoir autorisé la CIA à entreprendre des actions létales et clandestines, bafouant le droit international en frappant des bateaux du pays en mer des Caraïbes. Les fortes tensions entre la Maison-Blanche et Caracas continuent de s'accentuer, même si ces derniers appellent à la paix. 5 embarcations ont déjà été détruites et leurs 27 passagers tués sans aucune sommation. Pour finir en sport, c'est Ligue des Champions féminines ce soir. Les joueurs du Paris Saint-Germain reçoivent le Real Madrid pour le compte de la seconde journée. Hier soir, leurs voisines du Paris FC se sont lourdement inclinées à Londres contre Chelsea. Le score est sans appel, 4-0.
Merci Tom. C'est la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Et tout de suite, on écoute Faye Yen Rem Daranoura. Pardon.
Oh, one piece of one.
Donc oui, c'était Faye Yen sur Radio Campus Paris, pardon.
La matinale de 19h.
Et Anaïs est avec nous dans le studio pour nous parler de blazer et de...
Les quatre jeans qui matchent avec les blazers, oui,
voilà,
tout à fait.
Voilà, c'est ça, merci.
Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Quelle que soit la saison, le blazer et la veste, qui ne nous quitte jamais, et plus particulièrement les femmes. En effet, et ce en raison de la météo assez changeante, les femmes sont en quête de conseils pour leur, qui leur permettent de trouver le style qui leur correspond, avec un design qui se résume à un jean et un blazer, ainsi que quelques accessoires. Tel qu'un sac cabas en cuir, un pull en cachemire ou encore une paire de bottines motard. La question que l'on se pose, quelle coupe de jean associée au blazer ? On peut associer le blazer à un jean baggy, aussi appelé wide leg, qui est vraiment le jean parfait pour la saison. Il est apprécié car il est justement 10 fois trop large et va ainsi créer une vraie modernité dans leur silhouette et un contraste très chic avec le blazer. Pour le jean 7 sur 8, c'est l'indispensable de l'automne pour les amateurs de chic et d'élégance. Il s'unit avec une paire d'escarpins slingback, une paire de chaussettes côtelées et bien évidemment un blazer structuré. Pour le jean taille haute, qui a longtemps apparu aux années 80, s'inscrit dorénavant dans le modèle des femmes aux jolies silhouettes, son atout principal qui les mettant en valeur. Cela est encore mieux si on l'associe avec un blazer court. Pour le jean straight, option de mode côté denim, il peut s'associer avec des bottines Santiago ou encore des mocassins formels. Côté blazer, on peut jouer la carte de l'oversize. Voilà.
Merci Anaïs, et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Aujourd'hui dans le Zoom, nous recevons Mathilde Saint-Jean-Vitus-Diche, responsable, donc animation, assistante de coordination, et Camille Guiton, responsable de communication. Et c'est Diane qui nous les interviewera, pardon, excusez-moi. Bonjour Mathilde Saint-Jean, bonjour Camille Guiton. Et Diane, je te laisse la parole.
Merci Fabien. Alors, comment ça va, Camille et Mathilde, à quelques jours du début du festival, même si ça a déjà commencé parce que j'ai une première partie destinée aux scolaires qui a commencé du 3 au 17 octobre. Mais comment on se sent à quelques jours du début ?
On a hâte, on est un peu stressé évidemment, on est sur les chapeaux de roue.
Oui, bah comme tu l'as dit, le Festival Paris Science, il a déjà commencé depuis 2 semaines avec le professionnel et le scolaire. Mmh. Et donc déjà, on profite bien de ces 2 semaines, c'est assez magique. Et là, on est assez impatiente de commencer le grand public aussi dans quelques jours.
Trop cool. Donc Paris Science, c'est un rendez-vous incontournable des passionnés de films et de sciences. C'est une vraie opportunité de rencontre avec les chercheurs, les chercheuses. Ça fait maintenant 21 ans que ça existe. En 2025, pourquoi c'est important de parler de science et de se renouveler aussi sur sa programmation ? Et comment on fait pour questionner la science en 2025 ?
La science, ça a été toujours un des grands enjeux pour le festival de la transmettre, parce qu'il y a ceux qui la font. Maintenant, le grand public n'est pas toujours en contact avec ceux qui la font. Et donc, nous, on est des passeurs depuis 21 ans de ce savoir-là. Maintenant, vous le savez, vous entendez les informations. De plus en plus de citoyens remettent en question la science, il y a un vrai doute et il y a l'impression que la science est faite par des gens lointains qui ne sont pas du tout en contact avec les réalités. Et le film documentaire notamment, mais aussi de fiction, c'est vraiment aussi un très très bon moyen pour tout un chacun, expert ou pas, de redécouvrir les sciences, de refaire marcher son esprit critique parfois, d'être curieux en fait.
Et cette année, le cycle des documentaires, des conférences que vous allez présenter, c'est autour de 3 thèmes, l'eau et l'océan, les portraits de femmes scientifiques inspirantes et la santé mentale. Pourquoi vous avez choisi ces cycles-là et comment on peut les retrouver aussi au sein du festival ?
Alors dans notre programmation, on a ces 3 cycles, mais on parle aussi de plein d'autres thématiques.
Oui,
en fait, là, c'est 3 cycles que notre programmatrice a choisi, mais on parle autant de biodiversité, d'environnement aussi. On a plusieurs autres compétitions. Et ces cycles, ils ont été choisis en fonction aussi de l'actualité. Par exemple, eau et océan, c'est parce que c'était l'année de la mer en France. Et on a aussi eu la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc voilà, le cycle santé mentale, c'est aussi avec la prise de conscience un peu collective. Et donc, on a reçu pas mal de films sur cette thématique. Donc, c'était chouette de les mettre en avant. On a vraiment plusieurs... au sein de la santé mentale, on parle de plusieurs thématiques différentes, autant de la schizophrénie que de l'éco-anxiété, par exemple. Et portrait de femmes scientifiques, c'est parce qu'on a aussi pas mal de films qu'on a reçus et qu'on voulait mettre en avant pas mal de figures importantes de notre société.
Et d'ailleurs, sur la santé mentale, est-ce que ça a un lien avec aussi le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui parlent de ça et qui sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux pour parler de leur santé mentale, de leurs problématiques au quotidien. Est-ce que ça a un lien aussi avec peut-être des chercheurs, des chercheuses qui de plus en plus aussi parlent de ça dans leur travail ?
Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est très, très d'actualité. Maintenant, nous, on essaye aussi d'en parler avec des spécialistes.
Oui,
il faut rappeler que la plupart de nos séances sont suivies, quasiment toutes en fait, sont suivies d'échanges avec des spécialistes universitaires, scientifiques, experts, expertes. C'est des gens qui aussi vont vous donner des clés concrètes en plus des films. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir ces discussions qui sont extrêmement importantes et que les spectateurs, spectatrices puissent poser leurs questions. En plus de ça, nous, notre volonté, c'est aussi de parler de science différemment. Et sur la question de la santé mentale, on a aussi une vraie réflexion sur avoir une approche sensible de cette question. Et donc, les programmatrices ont aussi choisi de mettre en avant des films qui parlent de la santé mentale de façon, je dirais peut-être pas positive, c'est difficile de dire ça, mais qui donnent de l'espoir, qui donnent des clés. Il y a notamment deux films extrêmement intéressants, Sarah Fall et puis Billy, qui sont des films qui sont faits par un réalisateur et une réalisatrice qui ont eux-mêmes été en contact avec des personnes dans des situations très prononcées de schizophrénie en l'occurrence et qui donc apportent un point de vue extrêmement différent et très fort sur cette question et sur ce qu'apporte l'art à ces problématiques.
Paris Science, c'est plein de projections, etc. Mais c'est aussi plusieurs prix que vous pouvez remettre durant le festival. Donc il y a le prix Empreinte, Grand Écran, etc. Moi, j'avais envie de faire un focus sur le prix Étoile ou Étoile de Science. Est-ce que vous pouvez nous en parler et pourquoi il est différent des autres, en tout cas ?
Depuis 7 ans, cette compétition existe tout simplement parce que vulgariser les sciences, parler de sciences, mais aussi d'écologie, de sciences sociales aussi, parce que ça fait partie des sciences, ça se passe plus uniquement sur à la télévision, à la radio et au cinéma, mais ça se passe aussi beaucoup sur d'autres médiums, d'autres plateformes, et notamment dans le numérique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de gens qui transmettaient les sciences ailleurs, notamment sur YouTube, mais aussi sur Instagram, sur Twitch, etc. Et donc, c'était important pour nous d'inviter ces gens-là, parfois jeunes, avec parfois un charisme assez incroyable, à parler autrement, en fait, de ces thématiques.
Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ?
Ça nous permet de toucher aussi un autre public. On a organisé aussi, du coup, différents live Twitch depuis 2 ans, et donc notamment avec Étoile, un des streamers qui sera dans le jury cette année.
C'est une belle évolution. Qu'est-ce qui vous a donné envie, au-delà du prix, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer ce nouveau médium aussi il y a aussi un enjeu d'accessibilité, des personnes qui ne sont pas sur Paris, par exemple, de se lancer sur Twitch, notamment avec la présence d'Étoiles dans le jury cette année. Mais vous avez aussi fait 2 live Twitch, si je ne me trompe pas, un peu en amont du festival. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer ce nouveau médium ?
Ça fait plusieurs années. Déjà, il y avait eu une salle virtuelle aussi pendant plusieurs années avec le festival. On l'a un peu changé et fait évoluer justement en live Twitch pour nous faire de nouveaux partenariats du coup avec pas mal de nos partenaires. Justement, nous, on n'a pas de chaîne live Twitch à nous, mais on investit les chaînes de nos partenaires. On en a fait un avec Sciences et Avenir et un avec l'Institut de Physique du Globe de Paris et un avec le Muséum, mais aussi les années précédentes avec Arte. Ça nous permet de mettre en avant notre programmation, de parler, de faire des focus sur certains films. C'est ce qui permet d'élargir aussi notre public et en effet d'aller en dehors de Paris.
On est à Radio Campus Paris, c'est pas pour rien. Cette année, il y a un enregistrement de l'émission Happy Hour Scientifique qui aura lieu le 25 octobre. Et ce sera avec des personnes qui ont participé au film Origine, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette collaboration ? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été fait dans le passé ? Comment ça s'est fait, cette idée ?
Oui, totalement. Enfin, du coup, on a, en plus de toutes les projections qui sont gratuites, d'ailleurs, je le rappelle au festival, on a aussi une agora qui est mise juste à côté de l'amphithéâtre Verniquet dans le Jardin des Plantes. Et dans cette agora, on organise énormément de discussions avec des programmes de recherche notamment, des conférences, des tables rondes et aussi du coup des enregistrements, un de podcast et un notamment de l'émission l'association Happy Hour Scientifique avec Radio Campus, c'est un renouvellement de partenariat. En fait, on était déjà partenaire avec eux. Ils l'ont fait l'année dernière, c'était très chouette. C'est une heure d'émission, du coup, le samedi après-midi. Pendant une heure, ils invitent des personnalités qui sont présentes au festival. Donc là, il y aura Roman Hill, le réalisateur du film Origine, Un conte de la lumière, et aussi Corentin Duval, qui est producteur et qui a écrit aussi le film. Ils viendront discuter avec les étudiants de l'émission. Et il y a aussi des jeux, des quiz.
Oui, c'est pas quelque chose de très formel, c'est quelque chose aussi qui permet de vulgariser les choses et que ce soit un peu plus détente.
Oui, exactement. Et puis c'est en public. Enfin, l'Agora est vraiment ouverte au public et il y aura aussi des boissons dans ce lieu.
Le plus important, il y aura des boissons. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une recommandation pour le festival? Peut-être un documentaire que vous avez vu vous en amont et qui vous a beaucoup marqué, que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent?
On a aussi un vrai engagement vers l'écologie, la biodiversité, la nature, le vivant. Et moi, j'ai envie de parler d'un film extrêmement poétique de Pierre Créton qui s'appelle « Cette promenade avec Marc Brown ». On sait des promenades en compagnie d'un biologiste qui veut recréer une forêt primaire dans son jardin et qui se promène. C'est magnifique et ça donne plein d'espoir pour la suite de production et des films de science.
Trop cool.
Et moi, j'ai un film qui est du cycle santé mentale. Si l'équipe m'écoute, me diront que je suis redondante, mais moi, c'est Les Esprits Libres. Ce sont des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui partent pendant 2 semaines en fait, avec leurs soignants dans une résidence artistique pour créer une pièce de théâtre. C'est vraiment magnifique et drôle, émouvant. Voilà, c'est un petit bijou. Et pour un dernier mot, le festival il est gratuit et puis on peut réserver ses billets dès maintenant sur notre site.
Voilà. Super. Donc, pour rappel, le festival Paris Science, c'est du 23 au 27 octobre. Pour le grand public. Et vous ouvrez ce festival le jeudi 23 octobre, placé sous le signe de la découverte et du partage, avec la projection du film Oedipe is Your Love, écrit et réalisé par Eleanor Mortimer, c'est ça, le festival, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle et à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Et toutes les infos sont sur parisscience.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Mathilde Saint-Jean-Vitus-Diche, merci Camille Guiton, merci Diane, et on écoute de suite Kraftwerk, The Robots. C'était Kraftwerk, The Robot à l'instant.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est presque la fin de la matinale et je suis avec Gauthier pour sa 3754e chronique.
Bonsoir, cette semaine presque, c'est ma 69e chronique sur ces ondes. 69, bien sûr, ça veut dire que... on va... Ça dit quoi sur mes fiches? Attends. Baiser un max avec là les gens et tout pour faire la position du lila, là où le mec il doit faire le poirier pour mettre sa tête à l'envers du cow-boy pour rentrer dans le cheval. Ouh, je comprends rien du tout. J'ai bien fait de pas passer mon bac cul parce que alors là je suis largué quoi. Les jeunes font vraiment des choses de plus en plus insensées. Aujourd'hui il y avait un événement qui était l'équivalent du sexe pour de nombreuses personnes, prendre le métro. Bon, pas pour moi hein, je vous rassure, mais aujourd'hui c'était le tout premier jour de mise en service du MF19 sur la 10. C'est, donc c'était vers 11h15 depuis Porte d'Auteuil vers Boulogne. Bon, je vous dis ça, j'y connais pas grand chose, hein. Je suis pas non plus fou du bus. Hein. En gros, bon, pour parler avec des termes que vous pouvez comprendre, il y a un nouveau train. Un train, vous voyez ce que c'est ?
Ouais.
Bon, super. un train qui roule ? Non. Ouais. Bon, en fait, c'est bon. Imaginez une grosse voiture. Une voiture, ok. C'est imaginez. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais ok. Imaginez un burger, un burger très gros dans lequel vous pouvez rentrer et qui roule sur des rails. Bon, alors des rails. C'est bon. Imaginez un burger. Voilà. Donc le nouveau MF19, un nouveau train qui roule sur la ligne 10 du métro de Paris avec des trucs modernes. Voilà. Donc normalement, là, vous devriez trouver ma réaction bizarre. Moi, Gauthier, passionné de métro depuis 2187 jours et 2-3 heures, normalement, je suis censé faire une chronique d'au moins 5 minutes qui fait toute l'éloge de ce nouveau matériel roulant. Les plus, parce que soyons honnêtes, Gauthier passionné ne voit aucun défaut à ce moyen de transport majestueux qu'est le métro, le plus noble du monde et le plus sécuritaire, loin devant l'avion qui a eu en 2024 7 accidents mortels sur 40,6 millions de vols. Alors que citez-moi un seul accident de métro de tête, comme ça, et voilà, vous en êtes incapable. Mais je dois vous avouer un truc très grave, c'est que Gauthier passionné, il n'existe plus. Oubliez-le, parce que Gauthier aujourd'hui, ça y est, il est devenu parisien, il est devenu aigri. Il a quitté sa province, bien décidé à empoigner la vie, et la vie lui a bien tabassé la gueule en réponse à cet affront. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends le métro, je remarque plus les petits détails qui me faisaient sourire avant. Je remarque surtout les gens qui piquent ma place alors que j'avais réservé dans ma tête déjà 30 secondes plus tôt. Les gens qui te passent devant quand tu veux sortir, quand tu sens la piste dans les couloirs, quand tu rates ton train et que le prochain il est dans 3 minutes, quand il y a un bagage abandonné et qu'il faut changer son itinéraire, quand tu regardes, remarque en regardant par la fenêtre que tu vois une autre ligne parallèle et que vous pouvez faire la course entre trains, genre entre la 5 et la 7 à la gare de l'Est, genre c'est rigolo. Quand tu vois la tour Eiffel depuis la 6 entre Bir Hakeim et Passy, quand par exemple aussi tu découvres une nouvelle station et que tu visites toutes les sorties pour voir lesquelles te mènent où et où tu te rends compte que l'architecture c'est une dinguerie, genre à Villejuif-Guistavroussy sur la ligne 14, ou genre quand t'achètes un stabilisateur 100€ pour filmer le trajet de chaque station de métro depuis chaque entrée jusque sur le quai, mais que quand t'as essayé avec la 3 bis t'avais honte que tout le monde voit que tu filmes alors que du coup t'as abandonné l'idée jusque 2 ans plus tard, où t'as acheté pour 100€ de lunettes d'espion avec une caméra cachée dessus pour pouvoir faire ce projet en toute discrétion, mais que la qualité elle était loin de celle des vidéos de Laurent Baffy où il pousse un mec et qui lui répond oh putain Laurent, excuse-moi de la réaction. Du coup tu as abandonné l'idée. Ou ça vous arrive pas vous aussi quand vous léchez la barre avec la langue, là c'est trop bon d'avoir ce petit goût fruité là qui chatouille les papilles. Qui a dit ça Bon, j'avoue, j'ai peut-être un chouïa de passion qui me reste, mais je vous assure, rien de suffisant qui ne me ferait pas réussir un test d'autisme. Salut.
Eh ben, merci Gauthier. Merci Gauthier, la matinale de 19h est terminée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à Pierre-Henri, merci à Mathilde Saint-Jean, merci à Camille Guiton, merci à Hugo, à Diane et merci à Tom, Gauthier et Anaïs. Restez avec nous tout de suite, c'est Fréquence Recherche. La matinale de 19h revient lundi. Passez une bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.